Je voudrais aujourd'hui consacrer la séance, cette première séance, à faire deux choses. D'une part, essayer de délimiter un petit peu le problème que je vais traiter devant vous pendant ces quatre séances. Donc, consacrer une longue introduction à ce que j'appellerais une mise en problème. Et donc, justifier par là le fait qu'aujourd'hui encore, je vais vous parler de féminisme et de libéralisme. Alors, je dis aujourd'hui encore parce que certains d'entre vous qui suivent ces cours avec assiduité depuis quelques années déjà ont peut-être assisté au cours que j'ai donné l'an dernier et qui portait sur la question des morales féministes avec un point d'interrogation et qui, justement, autour de cette question de la morale féministe, interrogeait déjà la liaison possible entre une représentation du libéralisme politique et une manière de le critiquer. Une manière de le critiquer dont je vais ici essayer de donner quelques éléments plus précis. Alors le thème que j'ai choisi cette année d'aborder avec vous, c'est l'intitulé qui est proposé dans le programme, hein, tel que vous l'avez trouvé, « Une critique féministe et politique de la conception libérale de la société politique ». Alors, je voudrais expliquer un tout petit peu ce titre et d'abord faire une première remarque, c'est que par rapport à l'an dernier, j'élargis en quelque sorte mon point de vue de lecture puisque je ne me contente pas simplement de raisonner sur des situations morales qui caractérisent la relation sociale entre deux individus, telles que je l'avais un petit peu mise en évidence l'an dernier. J'essaye de passer de la sphère privée des relations interindividuelles à une sphère plus large, publique, des relations politiques. En clair, l'extension que je vais donner à mon propos cette année, c'est de passer de la conception de la morale à la conception de la politique. Et d'une certaine façon, mon propos ici va essayer de mettre en crise, si je puis dire, c'est un terme qui est un peu à la mode, mais qui, me semble-t-il, est tout à fait juste, mettre en crise certaines des représentations les plus habituelles, les plus courantes, si l'on en croit notamment les hommes politiques qui s'expriment de plus en plus à la radio, à la télévision, sur les différents médias. Donc mettre en crise cette représentation, cet ensemble de représentations libérales qui portent ce qu'on appelle une société juste. Alors, évidemment, il me semble que ce passage de l'éthique aux politiques ou de la morale à la politique, ainsi que j'entends le faire, me paraît important parce que la plupart de nos représentations communes, ordinaires, de la politique sont irriguées par un certain nombre de clichés, par un certain nombre de conceptions qui viennent tout droit des doctrines libérales classiques et modernes. Quand je parle de la critique du libéralisme, je ne veux pas me mettre dans une position qui serait celle du surplomb, où je pourrais avoir une vision complètement détachée de ce qu'est le libéralisme. Il faut bien comprendre que faire une critique du libéralisme aujourd'hui, c'est assez difficile. C'est même très difficile. Et pourquoi c'est difficile? Parce que tout simplement, le libéralisme, au sens large, représente une famille politique très différente, très hétérogène, et que d'une certaine façon, la plupart de nos conceptions politiques sont irriguées, traversées, par ces représentations libérales. Ça, c'est le premier point qui rend difficile une critique du libéralisme. Le deuxième point qui rend difficile une critique du libéralisme, c'est que depuis les années 80, et comme vous le savez, depuis la fin du bloc des sociétés socialistes, il n'y a plus d'alternative, en tout cas aujourd'hui pensable de manière cohérente, qui viendrait faire échec aux représentations et aux doctrines libérales. On a donc ici une situation qui est politiquement tout à fait particulière, puisque on peut dire que depuis une vingtaine d'années, approximativement, la conception libérale des sociétés justes et politiques règne quasiment sans partage. Alors, évidemment, la question qui se pose, surtout si l'on ajoute à ce fait événementiel très particulier et très important, le fait que le marxisme, comme doctrine, comme point de vue critique sur l'univers politique, s'est trouvé à la fin des années 70 et tout au long des années 80-90 complètement disqualifié comme discours alternatif. On se retrouve donc dans une situation particulière où Le libéralisme, à la fois comme doctrine et comme ensemble de valeurs, règne quasiment sans partage, du moins dans les sociétés démocratiques occidentales, au sens le plus large qui soit. On se retrouve également dans une situation où la critique du libéralisme, sous toutes ses formes, a du mal à se faire entendre. Autrement dit, à partir du moment où le discours marxiste, au sens le plus large et le moins sectaire qui soit, s'est trouvé en quelque sorte disqualifié pour des raisons historiques et pour des raisons conjoncturelles, la question qui se pose, c'est de savoir de quelle façon il serait possible d'inventer ou de trouver un relais critique qui permette de relancer, d'avoir prise en quelque sorte sur le libéralisme. Et il me semble, c'est en tout cas la conviction qui m'anime, que le féminisme, en tant qu'il est un ensemble de doctrines également, de théories, de représentations, extrêmement hétérogènes aussi, je vais y revenir dans un instant, il me semble que le point de vue du féminisme, ou d'un certain féminisme politique, peut être, justement, un angle d'attaque, un point de vue à partir duquel il serait possible de proposer une lecture critique du libéralisme qui soit beaucoup moins vaste et beaucoup moins généralisante que a pu l'être le marxisme et qui, pour le coup, pourrait retrouver une certaine efficacité. Efficacité discursive, c'est-à-dire se faire entendre et proposer véritablement des éléments d'objection tout à fait essentiels à l'égard d'une doctrine qui demeure malgré tout omniprésente. Il n'y a qu'à voir, sans vouloir faire du prophétisme, la manière dont depuis une année à peu près s'articulent les discours à la fois alarmistes et les réponses possibles à la crise financière internationale, à la crise de la zone euro. On ne sera pas surpris de voir ici encore une fois à quel point la doctrine ou les doctrines libérales sont extrêmement fortes et consistantes. Donc la question ici, et c'est la raison pour laquelle je choisis une fois encore de réfléchir avec vous à partir du féminisme, c'est qu'il est peut-être possible, à partir de ce féminisme, de penser une forme de critique des représentations libérales et politiques qui soit peut-être un peu plus efficace et un peu plus originale. Et qui surtout, peut-être, peut redonner à cette critique une certaine efficacité discursive. Alors, la deuxième question qui intervient inévitablement, c'est de quel féminisme va-t-il s'agir? Parce que quand on parle du féminisme, là aussi, féminisme, c'est une notion très large qui regroupe des catégories, des écoles, des courants extrêmement variés. Alors, je voudrais justement essayer de préciser un petit peu de quel féminisme il va s'agir et quel sera à partir de là mon propos. D'abord, le féminisme, la planète féministe est une planète qui est très ancienne. Très ancienne parce que les historiens nous montrent qu'on peut faire remonter les débuts du féminisme français, par exemple, au XIVe siècle, avec une dame qui s'appelle Christine de Pisan, qui est née vers 1363 et qui décède vers 1431, et qui va écrire la première revendication et la première défense féministe de l'éducation des femmes. Alors la question de l'éducation, c'est une question qui est très importante parce que, évidemment, c'est à partir de cette question de l'éducation que les premiers grands textes et les premières grandes doctrines féministes vont se déployer. Notamment, pas seulement en France, mais aussi en Angleterre, je pense notamment à tout ce courant qui va se déployer au XVIIe siècle, de féministes qui sont contemporains d'auteurs dont on va entendre parler bientôt, comme John Locke, et qui vont revendiquer là aussi une égalité du droit d'accès à l'éducation. Alors, certes, cette question de l'éducation a été probablement un des axes constitutifs des premiers grands système de pensée féministe, et on voit que, de ce point de vue-là, le féminisme a des lettres de noblesse qui remontent à extrêmement haut dans le temps. Alors, ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici, parce que c'est une question qui va nous préoccuper tout au long de cette série de cours, que c'est autour de la notion d'égalité politique que va se poser le problème de l'élaboration d'une représentation féministe de l'égalité. C'est comme par hasard autour de la question de l'accès des femmes à l'éducation, en tant que l'éducation est posée par les libéraux dès le XVIIe siècle, comme ce qui est véritablement émancipateur de l'individu, que la question va être posée. Et il y a de très très grandes, de très très grandes pensées féministes qui s'élaborent autour de la question de l'éducation. Et on pourrait faire une histoire du féminisme classique, hein, à partir de ce thème de l'éducation et à partir de la manière dont ce problème va être saisi, hein, comme un vecteur d'émancipation et d'accomplissement de l'individu, notamment de l'être féminin. Donc, il y a une ancienneté du féminisme. Une ancienneté du féminisme à quoi s'ajoute également une profonde hétérogénéité des féminismes qui est aussi la marque de sa richesse intrinsèque. Parce qu'on pourrait aujourd'hui, si on s'intéresse par exemple à l'histoire récente du féminisme, remarquer aussi bien outre-Manche, outre-Atlantique qu'en Europe, à quel point le féminisme s'empare d'un certain nombre de questions qui jusque-là étaient le privilège, en quelque sorte, des pensées politiques classiques, que ce soit l'écologie, que ce soit la question des minorités sexuelles, que ce soit la question de l'éducation, que ce soit la question du mariage, de l'égalité dans les familles, etc., etc. Il y a tout un ensemble de domaines sociologiques, politiques, éthiques, qui sont investis par le féminisme et qui marquent bien ici une forme de richesse, hein, de ces courants, puisque d'une certaine façon, ce que nous apporte ici le féminisme, c'est bien un regard critique, hein, sur un certain nombre de préjugés, de formes de pensée un peu constituées, figées, hein, et où là où le féminisme intervient, c'est pour montrer que ces représentations communes s'adossent en quelque sorte, hein, sur des présupposés sexistes. On en reparlera évidemment. Donc, à la fois une ancienneté du féminisme comme doctrine, comme ensemble de représentations, et une grande hétérogénéité du féminisme. Alors, évidemment, je n'ai pas du tout la prétention ici, en si peu de temps et en si peu de séances, de vous faire un portrait d'ensemble de cette histoire de l'humanité, hein, que l'on pourrait réécrire à partir du féminisme. Pour ma part, mon propos sera beaucoup plus limité et évidemment je me limiterai notamment à essayer de voir ce que le féminisme contemporain peut nous apporter du point de vue de la critique du libéralisme. C'est logique puisque c'est un peu la nature même du titre que j'ai retenu et que je souhaite ici développer. On peut distinguer alors au sein du féminisme deux types de critiques du libéralisme. Et c'est là-dessus que je voudrais maintenant essayer un petit peu de creuser pour, encore une fois, préciser ce que sera la nature de mon propos. On peut distinguer d'une part ce qu'on appelle des critiques internes du libéralisme et d'autre part des critiques externes. Alors je vais commencer par identifier et préciser ce qu'il faut appeler les critiques internes et ensuite je passerai aux critiques externes. Alors, ce qu'on peut appeler la critique interne, comme son nom l'indique, est relativement simple, au moins dans sa formulation la plus générale, c'est de dire qu'au fond, on a affaire à une critique qui s'efforce de conserver les principaux principes de la théorie libérale, qui s'efforce en quelque sorte de la modifier, de l'amender, de la rendre plus complexe, pour qu'elle puisse prendre en considération des situations qu'elle ne prenait pas forcément en compte. Ce qui veut donc dire que dans le cas des critiques internes, le féminisme dont il s'agit n'est pas du tout hostile au libéralisme. Il essaye simplement de faire coïncider, de faire aller ensemble un certain nombre de faits que le féminisme met en évidence et le fait que la doctrine libérale, elle, ne les prend pas en compte. On pourrait formuler cette critique interne à travers la question suivante. Dans quelle mesure est-il possible de modifier la théorie ou la doctrine libérale sans remettre en cause ses principes, de manière à ce qu'elle puisse prendre en compte un certain nombre de faits que le féminisme met en évidence? Alors je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Et cet exemple, ça sera le seul, puisque de toute façon, mon propos se concentrera principalement sur ce que j'appellerai tout à l'heure des critiques externes, c'est-à-dire des critiques beaucoup plus radicales qui remettront en cause la possibilité ou la compossibilité entre la doctrine et ce que revendique le féminisme. Alors, l'exemple que je choisirai ici, c'est un exemple qui porte sur un des très très grands représentants du libéralisme politique dans la seconde moitié du XXe siècle français, qui est un Américain qui s'appelle John Rawls. C'est probablement un nom dont vous avez entendu parler, et qui a publié en 1971 un texte absolument considérable qui s'intitule « La théorie de la justice ». Alors, je voudrais faire ici une toute petite remarque de méthode. Il ne s'agit pas, évidemment, de rejeter la totalité de ce qui se dit à propos du libéralisme ou dans les doctrines libérales. Si on veut faire une critique sérieuse du libéralisme, il faut le prendre au sérieux. Et il faut savoir que, historiquement, les représentants de cette doctrine sont des représentants qui sont souvent de très grands théoriciens et qui demandent, justement, pour cette raison, d'être considérés avec sérieux. Alors, dans cette œuvre magistrale, au sens où il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est probablement le texte qui sécrète le plus grand nombre de commentaires et de textes de commentateurs. Autrement dit, la bibliographie actuelle sur la théorie de la justice est absolument considérable. Celui qui voudrait faire un inventaire exhaustif de tout ce qui s'écrit sur cette théorie, eh bien, risque d'en avoir pour un moment. Donc, cette œuvre est à prendre au sérieux, et c'est la raison pour laquelle certaines féministes, je pense à quelqu'un dont j'ai parlé l'an dernier, qui s'appelle Suzanne Moller-Hawkins, dont j'ai déjà parlé, eh bien, ont décidé de les considérer avec sérieux, et de voir dans quelle mesure il était possible de les amender, hein, donc de les modifier pour les rendre plus performantes. Alors, quelques mots sur cette théorie de la justice, et quelques mots sur ce qui va faire l'objet de la critique. Dans cette œuvre, Rawls s'efforce de penser, d'une façon très théorique, à quelles conditions les citoyens peuvent s'accorder pour fonder une société qui est dite politiquement juste, c'est-à-dire une société bien ordonnée. Alors, l'un des moments très importants de cette théorie que je ne vais pas ici développer, ça m'emmènerait trop loin et ça m'éloignerait de mon sujet, mais l'un des moments importants de cette théorie, qui est une théorie idéaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, idéaliste ? Cela veut dire que c'est une théorie qui réfléchit sur les conditions idéales, mais qui ne se pose pas la question des conditions pratiques, empiriques, historiques. Et ça, c'est déjà un choix. C'est un choix qui n'est pas simplement un choix théorique, mais c'est aussi un choix qui est politique. Et il y a effectivement, dans l'histoire de la philosophie politique contemporaine, tout un courant, qui est d'ailleurs très largement représenté par Rawls, hein, de l'idéalisme qui consiste à réfléchir sur les conditions générales, abstraites, idéales. À quelles conditions peut-on élaborer les principes d'une société juste ? Et qui ne se pose pas la question et qui refuse de se poser la question de savoir sous quelles conditions il est possible de réaliser, c'est-à-dire de mettre en pratique, de mettre en œuvre une société juste. Il n'en demeure pas moins vrai que même pour être idéaliste, cette théorie est intéressante parce qu'elle nous permet quand même de comprendre un certain nombre des présupposés, des postulats qui caractérisent la doctrine libérale dans son ensemble. Alors, si on admet ce parti pris idéaliste, parti pris qui sera récusé par le féminisme radical, comme on en reparlera plus loin, si on admet ce parti pris idéaliste, eh bien, ce qui fait l'objet de la théorie de la justice de Rawls, c'est de savoir à quelles conditions les citoyens vont pouvoir délibérer. Alors, le mot délibération, comme vous le savez, c'est un terme bien galvaudé. On dit que les députés dans l'Assemblée nationale délibèrent. C'est très bien que les députés n'ont pas forcément le choix du programme des délibérations. On dit que la délibération, c'est ce qui caractérise la participation démocratique des citoyens dans les démocraties représentatives. Je vous renvoie à il n'y a pas si longtemps, 5 ans seulement, au grand au pluriel discours de Ségolène Royal sur la démocratie participative, puisque la participation était la condition d'élaboration d'un pacte commun par la discussion et l'échange de points de vue. Alors la question que pose John Rawls, c'est celle-ci: à quelles conditions les citoyens peuvent-ils délibérer et parvenir au terme de leur délibération à identifier les principes qui définiraient une société juste et égale pour tous? Et la condition majeure qu'il établit, eh bien, c'est de dire il faut que les citoyens délibèrent sous ce qu'il appelle le voile d'ignorance. Alors, évidemment, ici, le voile d'ignorance, c'est une image. Et c'est une image qui veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tous les citoyens doivent raisonner en faisant abstraction de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils seraient. Autrement dit, les conditions d'une délibération juste, c'est la délibération désintéressée. Or, pour être désintéressé, il faudrait que chaque citoyen accepte d'oublier, ne fût-ce qu'un moment, le temps de la délibération, ce qu'il est. Autrement dit, au lieu d'être un individu concret, charnel, impliqué dans des situations économiques, impliqué dans des situations culturelles, impliqué dans des situations de croyances religieuses, d'appartenance, de sexe, etc., il faut que le citoyen se dépouille en quelque sorte de tous ses oripeaux, de toutes ses qualités qui font du citoyen un individu concret, pour accéder à une sorte d'état abstrait du citoyen sujet sous voie d'ignorance. Et cette condition d'effacement des qualités de chaque citoyen devrait permettre une délibération juste. Pourquoi? Parce que chacun, oubliant en quelque sorte ses intérêts spécifiques, serait capable, par la raison, de se mettre à la place des plus défavorisés. Autrement dit, cette condition du voile d'ignorance, elle devrait permettre, nous dit Rawls, de raisonner justement parce que tout simplement, nul ne sachant ce qu'il pourrait être dans la société réelle, va essayer de raisonner en supposant qu'il pourrait être le plus défavorisé. Autrement dit, c'est cette représentation de la condition la plus modeste qui devrait permettre d'orienter les délibérations et les discussions. Ce qui fait que les principes qui seraient adoptés dans ce moment de délibération ne pourraient être que des principes qui au moins seraient favorables aux plus démunis. Vous voyez, le système est assez subtil, parce que même si on peut dire que c'est totalement abstrait, abscon, que ça n'existe pas, il n'en demeure pas moins vrai que sur le plan théorique, on a là une situation où Rawls nous donne les moyens d'imaginer ce que pourrait être en théorie une délibération désintéressée. C'est-à-dire une délibération qui pense finalement à cette situation de celui qui serait le plus démuni en ressources. Et donc, qui va élaborer les principes de la société sur cette base-là. Donc, d'ailleurs, là aussi, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais je crois que c'est important pour ne pas faire de contresens. Il faut quand même savoir que John Rawls, aux États-Unis, était considéré par les républicains comme par les démocrates comme un socialiste. Ce qui veut bien dire que la notion même de libéralisme est une notion qui est très fortement ancrée dans des réalités historiques, culturelles, très particulières. Et c'est vrai que dans de nombreuses polémiques extrêmement importantes que je laisse de côté, la position de Rawls est une position relativement progressiste à l'égard, si on la confronte ou si on la compare, aux positions qui ont pu être défendues par les républicains ou même par les démocrates. Donc, vous voyez, tout ça est quand même relativement compliqué, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer donc que le dispositif théorique de ce qu'il appelle la délibération sous voile d'ignorance, est un dispositif qui permet d'imaginer ce que serait la vraie délibération juste si chacun imaginait ce que pourrait être la position du plus défavorisé. Alors, évidemment, cette délibération, malgré tout, elle soulève, ou plutôt cette condition, elle soulève un certain nombre de problèmes. Elle soulève un certain nombre de problèmes, et la première des difficultés, et c'est ici que je reviens, que je retrouve mes féministes, que j'aime tant, et c'est de réfléchir un petit peu aux conditions de la délibération. Est-ce qu'il est possible d'imaginer véritablement qu'un sujet se dépouille à ce point de ce qui le définit dans son identité pour qu'il puisse raisonner et, si j'en crois Suzanne Moller-Hawkin, pour qu'il puisse se raisonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre à la place de quelqu'un qui est différent de moi. Quelles sont les conditions qui me permettraient de me mettre à la place de quelqu'un qui est différent de moi? Et Suzanne Moller-Hawkin, dans un très beau texte, prend l'exemple très simple. Qu'est-ce qui, moi, en tant que blanc protestant propriétaire d'une entreprise WASP, comme disent les Américains, fait que je pourrais me mettre à la place d'un noir ou d'une femme de service dans une entreprise de nettoyage, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que dans mon raisonnement, je pourrais me transposer dans la condition de quelqu'un qui m'est complètement étranger et, à partir de là, raisonner en mettant à sa place? Eh bien, Suzanne Moller-Hawkin nous dit la chose suivante. Les conditions telles que les pose Rawls ne permettent pas ce transfert. Pourquoi? Parce que pour pouvoir se mettre à la place de quelqu'un, il faut sympathiser avec lui. Autrement dit, le sujet qui va délibérer sous voile d'ignorance ne peut pas être simplement un sujet rationnel. La délibération, elle ne passe pas simplement par un travail de la raison. Elle passe également par la sensibilité. Elle passe également par quelque chose qui a à voir avec la sympathie, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans autrui. Et cette capacité à se projeter dans autrui, elle suppose une autre définition du sujet qui délibère, qui n'est pas celle proposée par Rawls. On voit bien ici que dans cette discussion, qui est une discussion complexe et que je simplifie pour des besoins pédagogiques, mais je crois que malgré tout j'en restitue l'essentiel, on voit bien ici que dans cette discussion se confrontent deux conceptions du sujet ou du citoyen politique. D'un côté, le citoyen politique, eh bien c'est une figure abstraite. C'est un petit peu d'ailleurs la figure qu'on retrouve quand on lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette espèce d'individu abstrait, universel, qui serait doté d'une capacité à raisonner, à opiner, à émettre une opinion, etc., etc. Mais, nous disent les féministes, cette possibilité de raisonner, c'est-à-dire cette possibilité d'imaginer ce que pourrait être une situation plus défavorable, elle implique des choses beaucoup plus radicales et beaucoup plus fondamentales que simplement un travail de la raison. D'où le deuxième temps de la critique de Suzanne Moller-Hawkin, qui consiste à dire, ce qui veut donc dire que si j'accepte les hypothèses de Rawls, eh bien le sujet qui délibère ne peut pas être une femme. Il est tellement abstrait, il est tellement dépouillé de toute ce qui le définit comme subjectivité concrète, que l'on ne peut pas imaginer que ce soit autre chose qu'un individu. Mais l'individu dont il s'agit ici est un individu de sexe masculin. Et ici, tout le travail critique que propose Suzanne Moller-Hawkin, c'est de montrer comment Rawls s'inscrit dans une tradition politique où effectivement, la conception de l'individu renvoie d'une manière relativement clair à une définition sexuée du genre. Le citoyen individu est de sexe masculin et il délibère avec son semblable. Conclusion, et je m'arrêterai sur cet exemple, mais voyez, est quand même intéressant par rapport au problème que je pose. C'est que la question que pose le féminisme à cette théorie libérale de la société juste, et qui est encore une fois une théorie extrêmement sophistiquée et extrêmement intéressante. Il ne s'agit pas ici de disqualifier le modèle d'un coup d'un revers de manche. La critique qui est formulée, elle est à sa manière extrêmement radicale, et elle consiste à dire, oui, la société juste que vous concevez est une société d'hommes. Ce qui veut dire que si je respecte les réquisites de cette théorie, eh bien je ne suis pas en mesure de pouvoir prendre en considération ce qui fait la différence entre les êtres humains et notamment les différences de sexe. Et je dis les différences de sexe, mais je pourrais ajouter les différences de race. Et je pourrais ajouter aussi la différence de statut entre le citoyen autochtone, naturel, et l'étranger. Autant de paramètres qui ne sont pas considérés de façon centrale par cette théorie et qui viennent donc limiter fortement la valeur universelle de la doctrine. Alors, face à ce constat, qui est quand même un constat assez massif, il y a deux attitudes possibles. Il y a l'attitude de Suzanne Moller-Otit qui consiste à dire « Je vais m'efforcer de produire des principes nouveaux qui vont venir renforcer cette théorie et lui permettre de prendre en considération ces facteurs. » C'est ce que j'ai appelé la critique interne. Cette critique, je vais la laisser de côté parce que ce n'est pas elle qui va me retenir. Et j'en viens maintenant à la définition de ce que j'appellerai la critique externe. Juste pour faire la transition, donc ici, l'exemple que je vous ai pris, et l'auteur dont j'ai déjà parlé l'an dernier, mais que je révoque ici pour les besoins, montre bien que l'objectif critique de Suzanne Moller-Otit, ce n'est pas de renverser la doctrine libérale, c'est de l'amender, c'est de la rendre plus précise, plus complexe, et donc, finalement, de lui donner la possibilité de prendre en considération des éléments qu'elle ne pouvait pas prendre en compte. Passer de la critique interne à la critique externe, c'est autre chose. Ça veut dire que la nature même de la critique va se transformer. Elle devient ce que j'appelle une critique radicale. Et qu'est-ce que ça veut dire, une critique radicale? Eh bien, c'est une critique qui va récuser la légitimité même des principes de la doctrine libérale. Alors, l'exemple sur lequel je vais raisonner, c'est l'exemple que je crois avoir cité, je me demande s'il est évoqué. Non, il n'est pas cité dans l'intitulé du programme, peut-être l'est-il sur le site. C'est une autre féministe américaine, très très grande dame, qui s'appelle Carol Pateman, P-A-T-E-M-A-N, et qui a écrit un livre qui a été traduit très récemment sous le titre « Le contrat sexuel ». Titre assez aguicheur comme ça, mais qui est un livre extrêmement sérieux, dont je vais vous parler tout au long de ces séances. Donc le texte est disponible dans la collection Textes à l'appui aux éditions de La Découverte. C'est un très beau livre qui est un livre tonifiant dans la lecture et enthousiasmant. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Quand on, parfois, la critique a un côté mélancolique, un côté extrêmement déprimant, parce que cet excès de lucidité peut conduire à une forme d'abattement et de suspension un peu pathologique. Ici, c'est tout le contraire qui se passe. D'abord, c'est un livre plein de revendications, mais plein de revendications extrêmement sérieuses, conduites à partir d'une lecture très serrée et très précise de la doctrine libérale. Hein, et c'est un livre qui est, pour le coup, qui donne de l'énergie. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça, et j'espère qu'au terme de ces séances, je vous donnerai l'envie d'aller voir un peu ce texte. Alors, en quoi consiste ici le caractère externe et radical de la critique que va proposer Carol Pateman? Eh bien, c'est de dire que tout simplement, par construction, le libéralisme ou la conception libérale de la justice telle qu'elle se construit progressivement tout au long d'une histoire qui est celle qu'on va retracer en partie, eh bien, cette conception libérale de la justice, elle ne prend pas vraiment en compte la question de l'égalité. De l'égalité entre les sexes, de l'égalité entre les races, de l'égalité entre les minorités, que sais-je, je pourrais faire une énumération très importante. Elle consiste donc à dire que finalement, libéralisme et égalité ne vont pas ensemble. Et de ce point de vue, il me semble que le résultat critique de ce genre de texte est tout à fait phénoménal. Au fond, la radicalité ici de la critique, elle va nous faire sortir du schéma libéral, parce que tout simplement, penser ou raisonner en termes d'égalité, d'équité, de justice, pour pouvoir le faire véritablement, il faut être en mesure de prendre en considération toutes les différences de sexe, entre autres. Alors, c'est évidemment sur les différences de sexe que le texte de Peitman va insister, mais il faut considérer qu'il s'agit là d'un exemple paradigmatique parmi d'autres. Au fond, ce qui fait ici la radicalité de la critique féministe de cette grande dame, c'est qu'elle va nous montrer que l'égalité sur laquelle repose la conception libérale de la société juste, eh bien, est une égalité pleine d'exclusion. Donc, pas une égalité. Et il me semble que de ce point de vue-là, évidemment, cette critique est tout à fait fondamentale. Au fond, elle vise à nous faire comprendre de quelle manière la conception libérale de la société est finalement une conception inégalitaire. Et pour pouvoir le montrer, elle va s'efforcer de mettre au jour tout un ensemble de conditions sur lesquelles, évidemment, la doctrine libérale passe en quelque sorte, hein, silencieusement, et qui, si on les prend au sérieux, eh bien, viennent en contradiction avec le discours même qui est proposé. Autrement dit, ce sur quoi va porter la discussion critique, et vous voyez ici comment se précise l'énoncé de mon problème, ce sur quoi va porter la discussion critique, c'est évidemment sur la manière dont le libéralisme conçoit l'égalité entre les individus citoyens. Au fond, le problème qui va être ici l'enjeu fondamental de la critique, c'est qu'est-ce que l'égalité ? Et vous allez voir que répondre à cette question n'est pas simple. Ça n'est pas simple ni du côté des libéraux, parce qu'il y a plusieurs acceptions possibles, pensables, de cette notion. Et évidemment, la critique que va produire ensuite Carol Peitman est une critique, elle aussi, extrêmement élaborée. Autrement dit, la question qui va faire ici l'objet de la controverse et qui va me retenir, c'est qu'est-ce que l'égalité ? Question banale, me direz-vous, question évidente, question courante, mais question que l'on éprouve, hein, au sens de l'expérience quotidienne de façon tout à fait fondamentale, et qu'il n'est peut-être pas dépourvu d'importance de reprendre un petit peu dans les termes d'un discours politique. Finalement, si j'essaye de reformuler encore cette question autrement, je dirais, d'une part, que la conception libérale de l'égalité n'est pas unifiée, mais qu'en même temps, cette conception libérale de l'égalité semble ne pas prendre en considération un certain nombre de situations et de conditions. Alors, celle qui va m'intéresser tout particulièrement ici, c'est évidemment la condition homme-femme, c'est-à-dire le rapport entre les sexes. Et il me semble que, méthodologiquement, justement, la prise en considération de cette question du rapport entre les sexes est un angle de lecture qui va nous permettre de faire apparaître les insuffisances ou les fragilités de la doctrine libérale. Alors la question, on peut encore la reformuler, et je me répète, mais ça n'est jamais tout à fait la même chose que je dis, de la façon suivante. Quand on dit que la société juste est une société d'égaux, c'est-à-dire faite d'individus citoyens libres et égaux en droit, il importe de comprendre ce que veut dire précisément ici le égal. Ou, plus précisément, il importe de comprendre ce à quoi renvoie politiquement, moralement, anthropologiquement, le terme d'égalité. Or, ce que justement veut mettre en évidence la critique féministe, radicale, c'est que ce terme d'égalité est un terme qui s'applique à un nombre extrêmement restreint d'individus. Je fais une autre parenthèse, mais vous allez comprendre le sens de ce rapprochement que je veux faire. Une lecture un peu rapide et un peu anachronique de la conception aristotélicienne de la démocratie aurait tendance à se faire croire que déjà le stagirite avait une représentation très moderne de la démocratie, puisqu'il admettait que tous les citoyens participaient aux délibérations et élaboraient en commun la loi de la cité. Je renvoie à ces textes tout à fait fameux qui sont souvent, parfois un peu tirés dans tous les sens, extrait du livre 2 des politiques d'Aristote, où après une présentation typologique des constitutions, Aristote s'intéresse à la démocratie, ce qu'il appelle la monarchie, enfin le gouvernement constitutionnel, et où il manifeste effectivement que tous les individus citoyens participent. Simplement, la réalité historique de ce « tous les individus citoyens » est bien différente de celle qu'on peut imaginer, puisque ça ne concerne que au plus 10% de la société ou de la cité athénienne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, n'étaient citoyens que les propriétaires, que ceux qui ne vivaient pas de leur travail, mais qui avaient suffisamment de loisirs pour pouvoir se consacrer aux délibérations, et qui donc vivaient du travail des métèques, des artisans, etc., etc. Bref, la réalité historique, sociologique, empirique de la démocratie athénienne est une réalité qui tranche étrangement avec ce que le discours théorique a pu en retenir. Bref, cette démocratie s'apparentait beaucoup plus à une aristocratie dans les faits, et du coup, cette notion d'égalité entre les citoyens était une notion très relative, elle concernait un nombre extrêmement restreint d'individus. Alors la question qui est ici posée par le féminisme, qui est une question brutale, comment peut-on penser une égalité comme principe ou comme qualité fondamentale de la doctrine libérale, alors qu'elle exclut les femmes, c'est-à-dire à peu près la moitié de la population, entre guillemets, pour utiliser un argument brutal et un argument assez peu sympathique. Donc, l'égalité, oui, quelle elle est cette égalité, et elle concerne qui ? Voilà les deux questions, d'une certaine façon, que le féminisme radical peut poser et va progressivement lui permettre de déconstruire cette espèce d'irénisme dans lequel on a généralement l'habitude de parler, de vanter les louanges de la doctrine libérale. Donc en creux, ce que le féminisme radical va permettre de mettre en évidence, c'est des évictions, des exclusions, qui, pour les féministes qui m'intéressent, ici notamment Peitman, mais d'une autre manière, bien d'autres encore, ces évictions, ces exclusions montrent que l'égalité dont il s'agit n'est pas une égalité universelle, bien au contraire. Donc, à partir de ce premier constat massif, et qui déjà modifie notre regard sur la doctrine, se pose un second type de question, et qui est là aussi tout à fait intéressant, et qui va expliquer la radicalité de la critique. La question qui va se poser, c'est comment expliquer que le libéralisme, justement, ou que la revendication libérale d'un certain universalisme de l'égalité, eh bien, dans son principe même, exclut certaines populations. Autrement dit, il ne s'agira pas simplement de dire que le libéralisme exclut, du point de vue de sa conception de l'égalité, les femmes, par exemple. Il s'agira d'essayer de comprendre pourquoi il est dans la nature même du raisonnement libéral de produire ces exclusions. Et c'est évidemment dans cette consubstantialité du principe et de la conséquence que se situe la radicalité de la critique. Parce qu'à partir du moment où vous montrez que le libéralisme se nourrit en quelque sorte naturellement de ces formes d'exclusion, alors la conséquence pratique ou politique, c'est évidemment de sortir de ce schéma, de sortir de cette représentation doctrinale de la société juste. Et c'est là, ça sera une autre histoire que je ne raconterai pas, mais qui est passionnante, c'est là que on rentre à l'intérieur de la planète féminisme sur des conflits de lecture et d'interprétation du libéralisme. Tout à l'heure, ce que je vous ai appelé pompeusement la critique interne et la critique externe, eh bien, elle marque une frontière entre deux discours possibles sur le féminisme, sur le libéralisme, du point de vue du féminisme. Un discours qui cherche à rénover, amender, modifier, tout en conservant le libéralisme comme doctrine, et un discours qui radicalement met le libéralisme en crise et le rend inapte, en quelque sorte, à se réformer. C'est en ce sens qu'on a d'un côté, via la critique interne, une lecture réformiste du libéralisme, là où, via la critique externe, on a une lecture très critique, c'est-à-dire qui rejette, en quelque sorte, pour des raisons qui sont internes à la doctrine, la nature même de ce libéralisme. Alors, ce qui fait la force, me semble-t-il, ce qui fait la force, me semble-t-il, de ce livre désormais classique de Carol Pateman, Le contrat sexuel, c'est qu'elle va démontrer de façon extrêmement convaincante que l'institution de l'égalité par excellence, à savoir le moment du contrat, et je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, l'institution du contrat, le moment du contrat social, requiert comme condition de possibilité l'exclusion des femmes. Donc, le raisonnement va très loin. Il s'agit de dire que pour qu'il puisse y avoir contrat et que l'individu devienne citoyen à part entière de la société politique, eh bien, il faut distinguer entre l'homme et la femme. Et plus encore, non seulement il faut distinguer, mais il faut arracher en quelque sorte la femme de toute possibilité d'exister dans la sphère de la société politique. Et cette éviction des femmes, elle se fait sur la base d'un contrat implicite que justement Pateman appelle le contrat sexuel. Alors, évidemment, je vous expliquerai. Mon objectif, c'est peut-être aussi un peu de vous appâter, ça sera la saison 2, si vous voulez, de vous donner aussi des éléments pour vous raconter ce qu'est ce contrat sexuel. Mais ce qui m'importe ici, c'est que vous compreniez bien la nature ici du raisonnement, c'est-à-dire que Carol Pateman va reprendre toutes les étapes de l'histoire du libéralisme à partir des grandes figures de la pensée politique, Hobbes, John Locke, Rousseau, etc., pour montrer comment ces auteurs pensent le moment fondateur de la société politique, des égaux, moment qui passe par le contrat, avec toute une série de conditions qui sont extrêmement défavorables pour les femmes. Et c'est évidemment ce point d'articulation que j'essaierai de vous faire comprendre dans mes propositions à venir. Alors, juste ici pour conclure provisoirement, parce que je bavarde et le temps passe, ce qui est intéressant donc dans le travail de cette grande philosophe américaine, c'est qu'elle nous propose finalement de réécrire l'histoire de la pensée libérale. Et elle, dans l'introduction de son livre, elle a ces propositions tout à fait intéressantes qui consistent à dire, au fond, finalement, qu'est-ce que c'est que le travail d'historien, c'est de raconter des histoires. Et c'est au sens sérieux du terme. On raconte une histoire, c'est-à-dire qu'on va prendre un parti pris, qui est un parti pris narratif, qui peut s'appeler un pacte de participation, un pacte d'écriture, et à partir duquel on va dérouler l'histoire dans l'histoire. C'est pas le film dans le film, mais c'est aussi l'histoire dans l'histoire. Et cette histoire qu'elle nous déroule, tout au long des chapitres qui constituent la trame narrative de ce texte, eh bien, c'est de montrer comment le libéralisme se construit doctrinalement sur l'éviction des femmes. Et évidemment, c'est quelque chose de radicalement, comment dirais-je, disqualifiant pour ceux qui valorisent en quelque sorte la doctrine libérale comme ça. Donc il me semble que là, on a un point de vue de lecture qui est extrêmement argumenté et qui est original parce que il montre qu'au fond, la condition qui est faite aux femmes est déjà, dès le début du libéralisme, qui promeut en quelque sorte l'individu libre, égal, titulaire de sa raison, autonome, libre de s'impliquer de ses croyances, eh bien, cette possibilité de l'émancipation de l'individu citoyen présuppose l'aliénation fondamentale d'une partie de ces individus que sont les femmes. Je voudrais faire une dernière remarque, et puis je pense qu'après, je vous laisserai un petit peu jouer le jeu des questions-réponses, comme la règle classique le veut. Vous avez remarqué que dans tout ce que je vous ai raconté à la fin, j'ai évoqué une notion très importante sur laquelle je reviendrai évidemment à partir de la semaine prochaine, c'est l'idée de contrat. Cette notion de contrat, elle est très importante parce que, évidemment, elle est au cœur du dispositif de la conception libérale des sociétés politiques modernes. D'une certaine façon, pour vous donner l'idée de l'importance de la chose, ce qui définit et ce qui oppose les sociétés d'ancien régime et les sociétés modernes, on en reparlera avec Benjamin Constant et Alexis de Tocqueville, c'est justement que la société politique dans laquelle on est une société qui est voulue. Autrement dit, ça n'est pas une société qui, dans son principe, nous est imposée par Dieu ou par le monarque. Le passage de l'ancien régime au nouveau régime, si je puis dire, c'est le passage d'une origine transcendante, théologique, ou d'une origine qui est celle de la personne héréditaire du monarque, à une origine de la société qui serait celle du peuple, des individus qui, eux-mêmes, se constituent en quelque sorte en société. Passage de la transcendance à l'immanence. Voilà en quelque sorte ce que serait ce basculement. Mais penser ce basculement, ça suppose tout un appareillage conceptuel extrêmement nouveau, qui est notamment celui du concept de contrat. Dans le moment du contrat, l'individu manifeste sa volonté d'appartenir à une société politique. Et la manifestation de cette volonté, c'est très précisément qu'il contracte avec son semblable pour constituer le pouvoir politique. Et dans ce moment de contrat, s'exprime de la manière la plus intense, la plus explicite, ce qui fait la liberté du citoyen. Savoir la liberté de vouloir et de vouloir choisir la société politique dans laquelle il vit. Donc, cette notion de contrat, on va la retrouver tout au long de l'histoire du libéralisme, et c'est très précisément cette notion de contrat qui va être discutée par Carol Pateman. Encore une petite remarque, si je peux me permettre d'abuser de votre patience et de votre attention. À côté de cette notion de contrat, est liée à elle la notion d'égalité, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour comprendre les enjeux critiques de ce texte tout à fait majeur qui est enfin traduit en langue française? Je rappelle simplement que ce texte existe depuis à peu près 30 ans. Mais évidemment, le féminisme américain dans les années 80 est un féminisme extrêmement vivace, extrêmement foisonnant, et il faut parfois attendre beaucoup de temps pour qu'il traverse à nouveau dans notre sens les frontières de la mer, puisque ce qui a irrigué le féminisme américain des années, la fin des années 70, 80, 90, c'est le féminisme français. Simone de Beauvoir, toutes ces grandes figures qui ont représenté dans les années 50-60 une tradition du féminisme critique, qui s'est exporté aux États-Unis et qui a essaimé de façon aussi belle. Bref, juste pour terminer sur ce point, il nous faudra réfléchir à cette notion de contrat, il nous faudra comprendre de quelle manière elle se relie à la notion d'égalité pour pouvoir mesurer toute la force critique du texte de Carol Peitman. Alors, deux références bibliographiques que je vous donne, que je me permets de vous donner, juste pour terminer sur ce point, je m'arrêterai là. Un petit texte, ou plutôt un petit recueil de textes qui a été publié, je crois que c'est en 2009, oui c'est ça, 2009-2010, dans une collection de poches chez Garnier Flammarion, et qui s'appelle « Écrit féministe » de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir. Alors, c'est vraiment une petite mine où vous avez des extraits de textes de toutes les grandes figures du féminisme français. Hein, et ça se lit très très bien. C'est vraiment, je crois, très important de pouvoir se reporter à ce genre de textes. Et je trouve que c'est vraiment très bien que Flammarion ait enfin donné accès à ce genre de textes par ce genre d'anthologie. Et puis donc, le deuxième texte dont je vais vous parler jusqu'à la fin du mois de janvier, qui est le texte de Carol Peitman, Le contrasexuel. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je me livre maintenant au jeu des questions-réponses. Si vous avez des questions, des objections ou des demandes de précision à faire, je suis tout ouïe.